C'est parti.
C'est une autre culture.
Encore une facture, j'en peux plus de cette papyrasse administrative.
Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout.
Imotez pas vous.
C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
Ok, je vais réactiver les micros. Je vais passer. Yes. Ok, donc une petite vidéo introductive sur mais c'est quoi en fait le sens de notre travail? Est-ce que c'est une bonne situation comme numéro bis a demandé à son scribe. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce film qui date des années 2000.
Ouais.
Non? Ok. Je vous propose de faire un petit tour d'écran où chacun peut un peu se présenter. Bon, on se connaît déjà tous, hein, mais plus dire en fait quel est votre travail ou votre activité actuelle. Parce que peut-être, enfin, voilà, c'est pas que un travail rémunéré, mais ça peut être une activité aussi. Pourquoi est-ce que vous aimez ce travail ou cette activité et ce que vous appréciez moins? Donc, votre travail, pourquoi est-ce que vous l'aimez et ce que vous appréciez moins? Bon, on peut commencer par Esther et Francis.
Ouais.
Moi, pour ma part, je travaille chez Allianz Global Investors. En fait, je suis responsable des risques. Mon activité, c'est de regarder les risques des investissements de ma boîte. Et ce que j'aime, en fait, c'est la partie analyse de données, de chiffres. Ouais, je pense que ça me correspond bien. Et ensuite, ce que j'aime en plus, c'est l'interaction avec des collègues qui sont devenus potes un peu, puisqu'on passe beaucoup de temps avec eux. Mais là, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est un peu les relations sont un peu réduites, on va dire, et moins. Ouais, différente de ce qu'il y avait avant. Parce que sur Internet, enfin, quand on se voit pas physiquement, on parle pas des mêmes choses que si on se fait des calls. C'est un peu différent. Et ensuite, ce que j'aime un peu moins. On va dire, être en contact avec des gens qui sont beaucoup plus difficiles, en fait. Des caractères difficiles, en fait. Ça, j'aime pas trop. Voilà.
Merci.
Alors moi, je travaille au SEL depuis un an et demi et je suis responsable d'équipe au service parrainage. Donc, je coordonne en fait le travail du service parrainage. Ce que j'aime bien dans mon travail, c'est déjà par rapport à ma mission, c'est plus la coordination des tâches. J'aime bien en fait avoir une vue d'ensemble du service et pouvoir répartir et veiller à ce que tout soit fait. Ce que j'aime bien aussi, c'est le SEL, l'organisation, parce que c'est une mission en fait qui me tient à cœur. Je sais où vont l'argent des parrains et je sais que ou des donateurs et je sais que ça a pour but aussi, on va dire de manière pas directe, mais d'évangéliser. Et ce que j'aime un peu moins, c'est le fait de pas être sur le terrain. Ça veut dire d'avoir l'impression d'être loin des bénéficiaires, de ceux qui ont besoin en fait de nos dons.
D'accord. Ok. Juliette?
Bah, moi, actuellement, je suis sans emploi depuis décembre.
D'accord.
Mais si je me réfère par rapport à mon ancien job, bah, j'étais responsable de corner, de boutique, de plusieurs, enfin, de deux stands. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'est pouvoir manager et de pouvoir être en contact avec eux. De pouvoir, bah, parce que du coup, comme tu gères une équipe, tu as plusieurs personnalités à gérer et c'est, je trouvais ça vraiment. C'était ma partie préférée et le contact avec les clients aussi. Enfin, ça dépend. Voilà, ça dépend. Avec le temps, j'appréciais moins. J'aimais en fait, ouais, pareil, manager et avoir, comme dirait Esther, avoir la vue sur l'ensemble et tout, de tout ce qui se passe et tout. Et de pouvoir former. Former aussi, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et ce que j'aimais moins, par contre, c'était un peu la pression de la direction, en fait, par rapport sur les chiffres et tout, ou bah, parfois bah, quelques relations avec les clients. Voilà. Et le milieu, bah, pourquoi j'ai quitté aussi mon travail, bah, parce que le milieu, au final, ne me correspondait plus, parce que comme j'étais dans un univers de luxe, très matériel, très matérialiste, pardon, je suis restée quand même 10 ans dans ce milieu, ouais, presque 10 ans dans ce milieu, et je me suis rendu compte qu'à bout de 10 ans, bah, je devais quitter et faire autre chose. Voilà. Et à la rentrée prochaine, j'espère trouver, enfin là, je suis en plein recherche, enfin, je suis en attente en fait, de pouvoir faire, si possible, deux formations en simultané, mais au moins une de sûre. Déjà pour me former, c'est de faire un CAP boulangerie. Voilà. Et la deuxième, ce serait dans la naturopathie.
Ok. Tu peux traduire la naturopathie pour ceux qui connaissent
Bah, ça concerne vraiment le bien-être de l'être humain à travers des aliments, enfin, des plantes, des choses naturelles. Enfin, moi, justement, je voudrais fusionner l'alimentation et la naturopathie, de comment bien manger, de comment prendre soin de soi. En fait, c'est vraiment par rapport au bien-être de l'être humain, en fait. Voilà, d'être conseillère et dans ce milieu. Et de comment bien manger, rééquilibrage alimentaire. Ça passe aussi par la psycho un peu aussi. J'ai vu le programme. J'ai un peu peur, mais j'ai quand même hâte d'un côté. Donc, j'espère pouvoir... J'espère que Pôle emploi voudra bien financer la CCR.
Il y a personne qui travaille chez Pôle emploi, mais bon.
Hein? Dommage.
Ben, je croyais que tu voulais faire passer un message à Pôle emploi à quelqu'un qui travaille. Parce que les deux formations sont en physique, du coup?
Alors, justement, la naturopathie, il y a une partie, enfin, il y a une grosse partie, c'est à distance. Donc, ça, ce qui est cool, c'est pour ça que je voulais faire le CAP boulangerie. D'accord. Donc, CAP boulangerie, c'est en physique, ça, c'est sûr. D'accord. Et c'est pour ça que, comme la naturopathie, c'est à distance, je me dis, j'aimerais bien combiner les deux. Et après, il y a juste une partie un peu, enfin, je sais pas si c'est une partie physique ou pas, mais il y a beaucoup d'heures à distance, en tout cas. C'est un programme assez lourd. D'accord. Voilà. Ça marche.
On peut passer à la famille.
Je suis sage-femme. Ce que j'aime, plein de choses en fait. Bien accompagner les femmes enceintes dans leur grossesse, après l'accouchement. J'aime à peu près tout ce qu'on peut faire. J'aime bien globalement être auprès des femmes qui sont en travail ou des fois qui vivent des situations plus difficiles. Et l'urgence aussi, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Ce que j'aime moins, c'est la partie administrative, parce que nous, on est beaucoup devant l'ordinateur, en fait, mine de rien. Et c'est pas évident, en fait, je pense, on se rend pas compte, en fait, quand on choisit ce travail, mais d'être de nuit, d'être travail le week-end, toujours avoir des horaires irrégulières, c'est pas évident. Et puis après, c'est la charge de travail qui varie, mais quand voilà, il y a des journées chargées, c'est humainement, c'est difficile voilà, c'est difficile à tenir 12 heures comme ça sans des fois avoir même le temps de manger. C'est vraiment c'est épuisant, quoi. Donc voilà, c'est ça. Mais voilà, les côtés que j'aime quand même m'aident à tenir les côtés que j'aime moins. Voilà.
Alors, moi, je travaille dans un cabinet comptable à République. Je m'occupe d'un portefeuille client à peu près d'une cinquantaine de dossiers. Je gère en fait principalement tout ce qui est aspect comptabilité et fiscalité. Ce que j'aime un peu, c'est dans ce métier-là, c'est plus le côté technique et analyse. Et ce que j'aime un peu moins, c'est parfois l'aspect clientèle avec des clients qui sont compliqués à gérer.
Denis ?
Alors moi, je suis développeur dans une société de services. Donc, je suis développeur chez les clients en mission. Et du coup, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est côté technique. Il y a les technologies toujours qui évoluent. J'apprends toujours de nouvelles choses. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et aussi travailler dans des équipes aussi qui... dans un projet, tout ça. Ce que j'aime moins, c'est que je suis donc la plupart du temps chez le client, et donc la société où je suis, je vois moi les collègues de la société où je suis.
Voilà. Ok. Rester dans le même thème avec Alain et Justine. Enfin, Alain d'abord.
Alors, moi, je suis développeur aussi. Alors, je travaille dans une société de services et maintenant, je suis devenu indépendant. Ce que j'aime bien dans mon métier, c'est de toujours changer le changement, découvrir des nouveaux secteurs d'activité, changer de client, changer de collègue. Toujours apprendre des nouvelles choses. Donc, au début, j'étais dans l'automobile, puis j'ai fait un peu de retraite, puis j'ai fait de la banque, j'ai fait de l'assurance, j'ai refait de la banque, et là, je vais travailler dans l'alimentaire.
Est-ce que tu aimes moins ?
Ce que j'aime moins, c'est à chaque changement, il faut tout réapprendre, apprendre tous les process.
André, je ne sais pas si tu nous entends. Tu veux partager ?
Oui. Alors, moi, je suis ingénieur informatique. Je suis aussi développement.
Oui.
Non. Ce que j'aime bien dans mon métier, c'est un job assez facile. Je dirais que c'est pas très compliqué. Puis le milieu assez sympa, donc en général les personnes qui sont dans ce milieu-là, ils ont une vie assez plus ou moins aisée, on va dire. Donc ce sont des collègues qui sont plutôt insouciants, donc ça, les discussions et tout se passent plutôt bien. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'agressivité. Ce que j'aime moins, c'est qu'en fait, c'est un petit peu alimentaire. C'est pas forcément le job de ma vie, mais je crache pas dessus. Ça reste vraiment un métier, je veux dire, agréable à faire.
D'accord. Merci. Est-ce que Jennifer, elle est avec toi ?
Oui.
Oui.
Tu veux partager ?
Je suis maman au foyer là maintenant.
Bah ouais, mais c'est une activité, hein. C'est un travail. Moi, je vois ma femme faire.
C'est un travail difficile, ça.
Oui, j'ai fait plusieurs métiers différents. J'étais juriste, j'ai travaillé comme juriste dans les cabinets d'avocats, dans les groupes. Après, j'ai travaillé dans une librairie chrétienne pendant un an et demi. Et là, je suis maman au foyer depuis la naissance de Théodore. Donc, ça fait bientôt 7 ans. Donc là, je pars de mon activité de maman au foyer, c'est ça?
Ouais, là, c'est que tu veux partager, ouais, vas-y.
Alors, ce que j'aime bien, ce que j'ai toujours aimé, c'était un petit peu mon rêve dans ma tête de jeune fille. Je voulais être, comment ça s'appelle? C'est comme, c'est en même temps une gouvernante et institutrice pour les enfants. Tu sais, je rêvais, je disais, André, je voudrais être dans une famille riche, comme ça, il me fait bien. Et j'éduque leurs enfants et je m'occupe pleinement des enfants, leur éducation de A à Z. Mais c'est ce que je fais avec mes enfants. J'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup de projets dans ma tête pour les enfants, ce que je vais faire avec eux, comment je vais les éduquer. Je lis beaucoup de livres pour me renseigner parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup de limites, il y a plein de choses que je ne sais pas, des fois je réagis mal. J'aime beaucoup cette interaction avec les enfants, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Après, le côté négatif, c'est que j'ai pas d'horaire. c'est tout le temps, c'est le matin jusqu'au soir et je me pose quand ils dorment. Au début, quand ils sont petits, j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Et puis là, j'en ai un peu plus, un petit peu plus, pas forcément. Après, le côté difficulté, c'est qu'il faut être endurant. Parce que les enfants usent beaucoup ta patience. Il faut beaucoup, beaucoup d'amour et ça travaille beaucoup ton caractère.
Tu parlais que c'était du matin jusqu'au soir, mais du coup, tu ne les mets pas à l'école aussi? Tu les mets à l'école? Tu fais l'école à l'école?
Oui, je les mets à l'école, mais alors quand ils allaient à l'école, ils rentrent pour manger à 11h30. Donc, j'allais les récupérer le matin, ils vont à l'école. Après, moi, je fais mes courses, je m'occupe de la maison, je vais récupérer à 11h30. Après, ils restent avec moi, ils retournent à 13h30. Je récupère à 16h30. Après, on a des activités.
Voilà. Ouais,
on est en conservatoire ou dans des activités.
D'accord. Et peut-être quand ils seront plus grands, quand ils auront la cantine, ce sera peut-être plus simple pour toi, non?
Oui, ça peut être plus simple, mais c'est un choix. Je me dis, c'est un choix si je ne mets pas à la cantine. Parce que ça me permet de les voir et on a beaucoup d'interactions. Mais c'est un choix, quoi. Ça me gêne pas de les avoir avec moi à déjeuner. C'est sympa, je trouve. Parce que ce qu'ils ont développé chez eux, c'est qu'ils me parlent de ce qui se passe à l'école. Mm-hmm. Souvent, on a beaucoup de discussions. On a de bonnes relations avec les enfants.
D'accord. Ok. Bienvenue. Alors, je ne sais pas si c'est Laï ou c'est Bernard, mais c'est peut-être le compte de Laï. Je ne sais pas si tu nous entends.
Salut.
Salut Laï.
Salut.
Ça va? Du coup,
Hélène aussi.
Ah, salut Hélène. Ah, vous êtes à l'église.
Ouais.
Salut.
Salut. Du coup, on est en train de faire un tour d'écran où on partage quel est notre métier ou notre activité. Parce qu'on vient d'avoir Jennifer qui partageait son activité de mère au foyer. J'ai l'impression qu'elle fait plus de choses que moi. Enfin, si, elle fait plus de choses que moi, je crois. C'est pas les mêmes horaires. Et du coup, l'idée, c'est de partager qu'est-ce que vous appréciez dans votre activité ou dans votre travail et ce que vous appréciez moins. Voilà.
D'accord.
Si Laï, tu veux commencer?
Je n'ai rien suivi là. J'étais à droite, à gauche.
Pardon, je disais, quel est ton métier? Ce que tu apprécies dans ton métier et ce que tu apprécies moins?
Mon activité, c'est surtout travailler sur l'ordinateur, sur un langage. Et donc, ce que j'aime bien, c'est le travail d'équipe hein, avec les collègues et aussi la relation. On s'entend bien et on peut échanger plein de choses sur la famille, tout ça. Et voilà, sinon tout se passe bien.
D'accord. Et il y a des choses que tu apprécies moins dans ton travail ou des difficultés ou que tu vois?
Non, pas trop.
D'accord. Ok, ça marche. Hélène, du coup?
Moi, je vais rester une demi-heure avec vous. Hein. Bon, d'accord. Moi, je suis, tout le monde sait que je suis avec des personnes âgées. Donc, c'est ce que, j'aime beaucoup ce travail-là parce que j'ai toujours aimé travailler parmi les personnes âgées, tout ça. Voilà. La relation avec l'équipe, ça va. Parce que je ne fais pas partir de leur personnel. Je suis vraiment un service qui est en plus, dont il y a moins de contraintes. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que c'est une maison qui a beaucoup de problèmes parce qu'en l'espace de... Je suis là depuis 14 ans, mais en 14 ans, j'ai quand même... Il y a beaucoup de changements, on va dire, de la direction. Alors, j'ai connu au moins, on va dire, 7-8 directeurs. Ce n'est pas évident. Mais sinon, à part ça, je trouve ça va. J'aime bien mon travail. Voilà.
D'accord. Merci. On a Laurent qui nous a rejoint. Tu nous entends, Laurent ?
Ouais.
Ouais. Du coup, l'idée, c'est quelle est ton activité ou ton travail et ce que tu aimes bien, ce que tu aimes moins.
Okay.
À toi.
Bah, je pas de travail. Hein.
Bah, si, t'es étudiant quand même.
Ah oui.
Bah, qu'est-ce que tu aimes bien dans le fait d'être étudiant ? Qu'est-ce que tu aimes moins, etc.
La prise de temps, non ?
Ah, c'est à toi de me dire. Ouais. Non, qu'est-ce que tu aimes bien dans le fait d'être étudiant ?
C'est intéressant d'apprendre des trucs.
Ok. Ok. Est-ce que tu aimes moins bien dans le fait d'être étudiant ?
Bah, ça dépend des profs. Il y a des bons profs et des mauvais profs. Et ça, c'est comme en entreprise.
Ouais, ok. C'est tout ?
En France.
J'ai cru que tu allais me dire, c'est le fait de ne pas être payé, mais bon.
Ouais, aussi.
Non, tu ne l'as pas dit, du coup, je ne note pas. Ok. Ça marche. Bah, merci en tout cas, c'est intéressant. Je ne sais pas si tout le monde savait ce que chacun faisait comme métier. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes aujourd'hui sur certains collègues, enfin sur certaines personnes? Ouais.
Moi, non, je savais.
Ok. Est-ce que tout le monde savait que Juliette voulait faire de la naturopathie, par exemple? Voilà.
Ouais,
ça, je ne savais pas.
Ah, non.
Les animaux.
Ah, on a Stéphane qui nous a rejoint. Stéphane,
bon, je savais.
Tu m'entends?
Stéphane.
Bon, Stéphane a dû croire que c'était à 10h30, je pense. Ok, donc on va continuer. Je vais faire un partage d'écran. Hop. Sur ce document. Je ne sais pas si vous voyez, vous me dites, hein. C'est bon ?
Oui, c'est bon.
Oui.
C'est bon.
Ouais, super. Je vous présente un peu l'association avec laquelle je travaille, qui s'appelle du coup C'est Proactif, où le but, c'est d'encourager les chrétiens dans le milieu du travail. C'est une présentation en fait qui a été faite plutôt à destination des responsables d'église, mais bon, c'est un bon support pour chacun, et même si on n'est pas tous responsables d'église, bah, c'est partie du corps de Christ. Donc le but, c'est comment est-ce qu'on pourrait être sel et lumière dans le monde du travail. Donc, on va voir la vision, les besoins et les services. Donc, ça commence toujours par une vision. En fait, souvent, nous, on est un peu l'église, on est un peu ces points jaunes. Et on dit, bah voilà, Matthieu 28, verset 18 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et on est appelé, en fait, à sortir de nos murs, en fait, d'église, pour accomplir cet ordre missionnaire. Et souvent, on va raisonner en disant, bah, c'est cool d'aller dans des pays étrangers, d'être missionnaire. C'est un peu la vision qu'on a un peu de l'époque de nos parents. Mais on se rend compte que ça ne se résume pas qu'à ça. Parce que, en fait, Certains vont partir à l'étranger, ce qui est bien, hein, c'est un appel. Mais les d'autres personnes, en fait, vont être sur le champ missionnaire, là où Dieu les a placés, c'est dans leur travail. Normalement, il y a à peu près toutes sortes de métiers qui sont regroupés dans ces thématiques. Donc, normalement, on rentre tous dans une de ces cases-là. On voit que, en fait, chaque chrétien, il est ce point jaune qui peut-être est parfois un peu isolé. Donc, souvent, on se réunit le dimanche ou au groupe de maison, mais après, on est de nouveau ce petit point jaune au milieu de tous nos collègues. Moi, pour ma part, c'est ça que j'ai pas partagé. Je suis ingénieur dans le bâtiment durable, donc c'est-à-dire que j'aide les architectes et les promoteurs immobiliers à respecter l'environnement dans la construction des bâtiments. Et je suis manager d'une équipe de 15 personnes. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'interaction humaine avec les gens. Ce que je disais, c'était il y a 3 jours, j'ai mangé au restaurant avec 3 collègues et je leur disais que en fait, ma façon de gérer, de manager, en fait, est inspirée par Jésus. Parce que Jésus, c'était pas une question il était vraiment respectueux de toute personne, en fait, que tu sois stagiaire, que tu sois directeur, je te parlerai pareil, en fait, parce que j'ai du respect pour qui tu es en tant que personne. Voilà. Et que Jésus, c'était pas une question de position, en fait. Jésus, il avait de l'influence. Donc, c'est un leader et il servait les gens. Et moi, c'est un peu ça que je cherche dans mon rôle de manager. C'est d'être influent et de pouvoir servir mon prochain. Ce que j'apprécie un peu moins, c'est d'avoir tellement de choses à faire que j'arrive pas à tout faire, ou du coup, faut que j'arrive à prioriser. Et j'arrive pas tout le temps, c'est pas toujours facile. Et du coup, des fois, ça déborde un peu sur mes horaires de travail entre équilibre, vie pro et vie perso. Voilà, ça m'est arrivé par exemple cette semaine de finir 2 fois vers 22h ou 23h. Surtout quand on est à la maison. Il y a encore moins de limites sur le bureau. Voilà. Donc, en fait, quand on voit ce graphique, chaque chrétien, en fait, qui est dispersé dans la semaine, parce que le week-end, le dimanche, on se revoit, on est encouragé, mais dans la semaine, c'est important que chaque chrétien puisse être encouragé, équipé et formé. Voilà. On est appelé à faire des disciples, mais comment est-ce que ça s'imbrique, en fait, dans notre travail? Est-ce que le travail, c'est juste un gagne-pain? Ou est-ce que ça va plus loin que ça? Donc pour ceux qui l'ignoraient, mais je pense que vous savez tous, j'ai participé au Forum mondial du travail où on s'est posé ces questions-là, mais avec 900 participants qui venaient de 110 pays différents. On était 4 personnes issues de la France, donc j'ai eu l'honneur de faire partie de ces 4 personnes et j'étais le seul jeune, sinon c'était 3 personnes plus âgées, vraiment plus âgées de la génération d'avant nous. Et il y avait vraiment de tout. Il y avait à la fois des missionnaires, des pasteurs, mais c'était la première fois qu'un événement du mouvement de Lausanne a regroupé aussi des gens du monde séculier. C'est chacun d'entre vous, d'entre nous, pourrait faire partie de ça, quoi. Voilà. Et l'idée, c'était justement de réfléchir ensemble sur notre contribution missionnaire sur le monde du travail. Ça se définit à travers un document qui s'appelle l'engagement du cap sur le travail dans la perspective chrétienne. Grosso modo, c'est une sorte de doctrine qui est expliquée en quelques puces. On va A, B, C, machin. Et ça, c'est un peu la vision globale du mouvement de Lausanne sur le travail. Le mouvement de Lausanne, rappelle, c'était un théologien qui s'appelle John Stott et un prédicateur de l'évangile qui s'appelle Billy Graham qui sont réunis ensemble, un évangéliste, pour réfléchir à la fois évangéliser, mais à la fois en respectant vraiment la théologie, d'où le fait qu'on parle de doctrine biblique du travail. Première chose, par exemple, c'est nous déclarons que le partage entre le sacré et le séculier est l'un des principaux obstacles à la mobilisation de tout le peuple de Dieu dans la mission de Dieu. J'avais insisté sur ça, on a fait un atelier, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le sujet, vraiment que, en fait, ce que je fais à l'église, ce que je fais dans mon culte perso, ok, c'est spirituel, mais si je commence à penser que ce que je fais dans mon travail, ce que je fais dans mes activités de divertissement, que c'est complètement séparé de ma vie avec Jésus, en fait, je me trompe. Il y a pas de séparation, en fait. Là où je suis, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, là où je suis appelé à être une lumière là où Dieu m'a placé, quel que soit là où je suis, quel que soit l'endroit où je suis, parce que Dieu est présent en tout temps. Deuxième chose, nous encourageons tous les croyants à accepter et affirmer que tout travail auquel Dieu les a appelés, quel qu'en soit l'endroit, constitue leur propre ministère et mission journalière. Donc voilà, c'est pas juste être missionnaire dans le sens je suis dans un pays étranger et j'ai une mission précise dans ce cadre-là, c'est de toucher les gens, mais c'est le ministère là où Dieu m'a placé, le ministère auprès de mes enfants. On est une mère au foyer, Le but, c'est d'instruire aussi, d'éduquer nos enfants pour qu'ils puissent avoir toutes les billes en main pour choisir ou pas de suivre le Seigneur. Et ça, c'est nous, on met tous les outils entre les mains des enfants, mais après, c'est voilà. Seulement, ils verront quand même notre exemple et ils pourront voir si ça leur donne envie ou pas. D'où le fait de vivre l'évangile, en fait, dans notre couple, notamment, ou dans notre famille. D'où le fait d'avoir des cultes de famille. Bon, ça, c'est encore notre sujet. On pourra en parler avec l'atelier des parents, si on avait un. Troisièmement, nous devons faire des efforts intensifs pour former tout le peuple de Dieu à vivre une vie de disciple couvrant la totalité de la vie. La vie discipulaire, souvent on dit, bah voilà, c'est former des disciples. Je suis formé comme disciple et je vais former des disciples. Mais je forme des disciples pas seulement pour qu'ils puissent prêcher l'évangile, même si c'est le cas, et même pas seulement pour lire la Bible avec les gens, même si ça fait partie. Mais c'est aussi comment est-ce que je vis comme disciple de Jésus dans mon travail? Comment est-ce que je vis comme disciple de Jésus là où Dieu m'a placé? Ou dans ma famille dans laquelle je suis. Le point D, nous exhortons vivement les responsables d'église à comprendre la portée stratégique du ministère sur le lieu du travail et à mobiliser, équiper et envoyer les membres de l'église comme des missionnaires dans le monde du travail. Bon, là, c'est assez clair, le point D. Et enfin, point E, nous exhortons vivement les responsables de mission à intégrer à part entière les faiseurs de tentes dans la stratégie missionnelle mondiale. C'est un grand mot pour dire que c'est un peu comme Paul. Paul était un prédicateur de l'évangile, mais l'apôtre Paul était aussi un faiseur de tentes. Donc, en fait, c'est être à la fois dans le milieu du travail, mais à la fois contribuer en tant que leader de l'Église. Bon, dans notre Église, la plupart des diacres ont un métier. Donc, c'est un peu cette idée-là. Mais là, l'idée, c'est aussi que on va pas que s'appuyer sur les missionnaires pour aller toucher les gens, mais on va s'appuyer sur, en fait, les missionnaires dans un sens beaucoup plus large, qui fait aussi partie des gens qui sont pas payés à plein temps par le ministère. Donc, une question qu'on pourrait se poser dans chacune de nos églises, c'est comment est-ce qu'on fait de la place pour le thème du travail dans notre vie cultuelle, c'est-à-dire dans notre vie d'un culte? Comment est-ce qu'on s'équipe en tant que chrétien? C'est un peu l'objet de cet atelier, c'est de pouvoir nous équiper en tant que chrétien sur ce thème spécifique du travail. Comment est-ce qu'on peut vivre un témoignage holistique? Alors, holistique, c'est juste pour dire que ça fait partie d'un tout, une vision globale. Et comment développer une vision juste de l'impact social que leur travail est appelé à exercer pour le bien de la société. Ça rejoint un peu, c'est hyper intéressant, c'est qu'on a tous des profils différents, mais on voit que, par exemple, Juliette se posait la question, mais à quoi ça sert finalement mon métier? Quel est le but? Quelle est la finalité? Et on se pose des questions éthiques, et voilà, ça peut faire réfléchir. Et probablement que Juliette, en même temps, dans cette formation, ça va t'aider aussi à mettre en pratique durant ton année de formation de CAP et puis aussi de pouvoir mettre ça en pratique, naturopathie, et de mettre ça en pratique derrière, quoi. Voilà. Ensuite, on a défini un peu cette vision. Maintenant, après, il y a le besoin. Donc, en fait, moi, je travaille avec Anne-Marie Husson. C'est une autre Anne-Marie, hein, qui est consultante indépendante. Elle a fait beaucoup de formations professionnelles. Donc, c'est elle qui a créé le site C'est Proactif. Donc, si vous savez c-proactif.org, vous avez toutes les ressources dont je vous parle. Et je suis parti aussi avec elle à l'événement là de juin 2019. Et c'est vraiment elle qui a eu cette vision pour vraiment équiper les chrétiens là où Dieu les a placés dans le monde du travail. Petite anecdote, elle fait partie de l'église de Ruben, du coup, à l'année. Alors, le travail, certains en ont parlé, hein, on peut vivre plusieurs défis, par exemple l'isolement. Alors, c'est pas le cas d'Esther Ossel, mais je suis le seul chrétien dans mon entreprise. Je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. On n'a pas forcément des chrétiens qu'on peut voir tous les jours dans notre boîte. Bon, Juliette a eu la chance de travailler dans le même endroit que Irénée et pouvait se croiser, par exemple, mais je pense que c'est pas facile pour ça, c'est pas le cas pour tous. Ensuite, on peut vivre aussi le stress. Par exemple, on peut se dire, il y aurait tellement d'autres choses plus utiles à faire pour Dieu, et du coup, on se dit, je fais mon travail, mais en même temps, je préfère autre chose, etc. Et du coup, je suis focalisé sur ce que je peux faire une fois que je suis sorti du travail. On peut vivre aussi le rejet. Si on dit qu'on est chrétien, peut-être qu'on va nous mettre de côté, qu'on va mal nous regarder, etc. Donc là, vous avez vu, on parle pas du tout d'évangélisation pour l'instant, hein, mais c'est important d'abord de se centrer sur quelle est ma vision, quelle est ma perspective vis-à-vis du travail avant de dire je vais aller faire des disciples dans le travail. C'est vraiment ça le but de cette formation. On peut ressentir aussi la culpabilité. Je suis sollicité pour faire des choses contraires aux valeurs de l'évangile. Clairement, si je dois manipuler un client pour qu'il achète mon produit, si je dois lui sortir la phrase qu'il faut, est-ce que c'est vraiment éthique? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. l'empêchement, je pourrais être licencié si je dis que je suis chrétien. Bon, ça, c'est assez extrême, mais peut-être ça serait juste déjà, je peux pas faire vraiment ce que je suis censé faire en tant que chrétien si je refuse d'obéir à telle ou telle tâche. Et en fait, on va voir que Dieu a un projet pour le travail du chrétien, parce que le travail a du sens. Et le fait que notre travail ait du sens, ça renforce notre motivation. Ça nous épanouit aussi, parce que ça nous aide à utiliser tous nos talents. Ça nous dit aussi, on peut croître spirituellement, parce que c'est souvent dans les épreuves qu'on apprend, qu'on se forge notre caractère et que finalement, on va pouvoir voir Dieu agir, voir Dieu nous conduire et voir Dieu nous transformer, à condition de se rendre compte que Dieu est présent dans le travail. Ça va aussi impacter notre environnement parce que Dieu nous donne sa sagesse et nous donne de la cohérence dans notre témoignage. Et ça va aussi nous donner un équilibre à travers une vie réconciliée entre travail, vie personnelle et vie d'église. Comment est-ce que je jongle avec ces trois casquettes que j'ai, ma vie perso, ma vie à l'église, mais également le travail. Et on sait que le travail, c'est ce qui utilise 70%, enfin, c'est ce qui consomme 70% de notre temps. Donc, si on fait quelque chose qui n'a pas de sens, on ne sait pas quoi faire et enfin, on ne sait pas pourquoi on le fait et franchement, on compte les heures, bah, c'est vraiment triste en fait. Alors que si on a une nouvelle vision des choses, si on mettait les lunettes spirituelles de Dieu, eh bien, ça pourrait complètement changer notre façon de voir le travail. Du coup, c'est le ministère de ces proactifs, c'est de répondre aux besoins des personnes là où Dieu les a placés dans le travail en les équipant. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, glorifier Dieu par notre travail. Donc, c'est proactif, pour rappel, ça fait partie du CNEF et du mouvement, et c'est soutenu aussi par le mouvement de Lausanne. Et on a des partenaires, voilà, les groupes bibliques d'entreprise, ICCC, Chrétiens Témoins dans le Monde et Agapé. Bon, ça, j'ai déjà dit. Ça, c'est le site internet. Quand vous allez sur le site internet, vous allez voir des formations. Donc, c'est un peu des webinaires sur des thèmes qu'on peut avoir. Aujourd'hui, notamment pour l'après-Covid, il y a eu des webinaires qui ont été faits sur ça. On peut avoir du coaching, on peut avoir des ressources aussi, comme celle qu'on est en train d'aborder. Donc ça, c'était plus pour les pasteurs. Il y a aussi même des prédications qui sont faites sur le thème du travail pour les pasteurs. Et voilà, je parlais de webinaires. Bon, là, c'est passé en juin, il en reste encore une qui n'est pas passée, mais c'est est-ce que mon travail est utile ou pas? C'est des webinaires de 1 heure, qui durent de 20h30 à 21h30. Sur quels critères on peut décider qu'un travail est utile ou pas. Et sont les critères de Dieu, en quoi notre travail est-il utile. Et un autre webinaire, c'était sur l'équilibre vie pro, vie perso. Quand est-ce que je gère mon agenda entre les deux. Et le travail, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est un droit. Ça, ce sera mardi prochain, si vous voulez participer. Voilà. On peut faire des choses comme mettre en place un séminaire. On peut former des groupes de partage et de soutien. C'est un peu le but de ce que je voulais proposer pour notre église. Et après, voilà, c'est toute une dimension. Après, on partage sur les réseaux ce qu'on a vécu et ça puisse encourager d'autres personnes. Ça, c'est le déroulement type. En gros, on vient, on partage. Ensuite, on se nourrit avec le temps biblique et la doctrine biblique du travail. Chaque fois, on va voir des différents thèmes. Et après, on se met en action. Comment est-ce que j'applique ça dans mes semaines à venir? Bon, là, je passe. Hop. Et j'arrête. Du coup, je ne sais pas si vous avez tous pu lire l'article qui était sur... Qui a lu très sincèrement? Sinon, on va le relire. Mais... Ok. Non, pas tout le monde. Ça marche. Pas de souci. De toute façon, on va faire une lecture. Du coup, je vais vous partager le PDF. Ah non, c'est pas le PDF que je vais partager, excusez-moi. Je vais partager l'écran 2. Voilà. Je propose qu'on lise à tour de rôle. Est-ce que, par exemple, Esther, tu peux lire tout ça? Pour commencer.
Hop. Merci. Chaque jour, nous allons au travail avec plus ou moins d'envie ou de plaisir selon nos différents contextes. Pris dans la routine ou, au contraire, happés par une compétition sauvage, nous pouvons avoir tendance à oublier les fondamentaux, c'est-à-dire ce qui fonde l'existence et la nécessité du travail. Or, cela est essentiel si nous voulons vivre nos vies professionnelles de façon responsable et aussi sereine. Et en tant que chrétien, les vivre comme Dieu l'attend de nous. Et pour cela, une doctrine biblique du travail est nécessaire. Pourquoi une doctrine biblique du travail ? Parce qu'une doctrine biblique du travail touche des questions essentielles de la vie chrétienne et de notre place de chrétien dans le monde. Voici quelques questions essentielles que la doctrine du travail peut nous aider à discuter.
Ok, Francis, tu peux lire ça, s'il te plaît.
Point. À quoi sert le travail ? Est-il une malédiction, quelque chose à endurer, ou au contraire une bénédiction, quelque chose à savourer ? Les deux, bien sûr, souvent à tour de rôle, selon les jours et selon les différents contextes où nous trouvons, mais aussi souvent les deux en même temps, tant au contexte du travail, peut comporter à la fois des côtés plaisants et passionnants, mais aussi des côtés irritants ou inconfortables, aussi bien au niveau physique qu'émotionnel. Sur ces points aussi, une doctrine biblique du travail a beaucoup à nous enseigner, afin de nous aider à naviguer de façon sereine dans une vie professionnelle qui peut s'avérer souvent complexe et remplie de nuances de gris, parmi lesquelles il faut choisir sans perdre son âme.
Ok. Juliette, tu peux lire le point 2, s'il te plaît.
Notre vision actuelle du travail est-elle bonne ? Le travail est universel, mais est-il partout considéré de la même façon dans toutes les civilisations, dans toutes les époques ? Non, bien sûr. Chaque époque a eu sa propre vision du travail. Certaines très éloignées de notre condition actuelle, comme la société romaine ou le servage, ou plus proche de nous, comme celle de la révolution industrielle du 19e siècle ou du capitalisme moderne du 20e siècle. Les doctrines du travail existent donc bel et bien et bien et chaque époque. Chaque civilisation a développé la sienne. Celles-ci ont conditionné la façon dont les humains ont perçu leur rôle et leur contribution aux autres et à la société. Notre 21e siècle, marqué par le capitalisme post-moderne, la révolution technologique et la globalisation, dispose lui aussi de sa propre vision du travail dont nous sommes, souvent malgré nous les héritiers, dans notre façon de voir les choses. Il est important d'arriver à les percevoir et de les mettre au filtre de la parole de Dieu pour décider ou non de leur bien fonder et savoir comment nous y positionner et nous, si nous voulons rester alignés avec les valeurs de la parole de Dieu dans notre vie professionnelle.
Jessica, est-ce que tu peux lire le point 3, s'il te plaît ? Après, il y a qui le point 4 ?
Le travail a-t-il une dimension spirituelle ? Quelles sont les dimensions du travail ? Juste une dimension économique ou faut-il y ajouter des dimensions sociales, philosophiques, voire spirituelles ? À cela, nous pouvons tous intuitivement répondre, car nous savons tous que le travail, c'est plus que gagner sa vie.
Ah. Pardon, excusez-moi.
Travailler, merci, c'est trouver une place dans la société, découvrir ses talents et les faire fructifier. C'est dépasser ses limites en participant à des projets de façon collective. C'est contribuer au développement de notre société. Le travail comporte donc des dimensions économiques, mais aussi sociales, psychologiques et bien sûr philosophiques, car il repose sur une interprétation du monde, ce que nous pensons du monde et ce que nous voulons qu'il devienne. Le travail repose sur un système de valeurs que nous soutenons, consciemment ou inconsciemment, par le simple fait de notre activité. Enfin, il est aussi spirituel car il engage l'homme dans tout ce qu'il a de plus profond en lui-même. Il touche l'essence même de notre être, là où Dieu nous a créés à son image. Et pour cela aussi, une solide doctrine biblique du travail est essentielle.
Qu'est-ce qui donne du sens ? Qu'est-ce qui donne sens au travail ? Imaginons un menuisier en train de construire un barreau de chaise. Est-ce le travail lui-même, le barreau de chaise fabriqué, qui lui donne sa noblesse ? En l'occurrence, Dieu est-il intéressé par la production tangible de notre travail ? Qu'est-ce que l'opportunité donnée au menuisier par la fabrication de ce barreau de chaise de rencontrer son prochain, de servir les autres qui lui confèrent de la valeur ? Dans ce cas, le barreau de chaise n'est qu'un média, un intermédiaire pour manifester quelque chose de l'amour de Dieu aux hommes. Ou encore, le travail ne trouve-t-il sa vertu que par les occasions de témoignage qu'il nous offre auprès de personnes de tous les secteurs de la société civile qu'il serait impossible d'atteindre autrement ? Dans ce cas, le barreau de chaise n'est plus utile, ni en lui-même, ni comme outil de médiation, mais comme prétexte, contexte, pour atteindre une seule finalité de témoignage.
Est-ce que Alain, tu peux lire ça ?
Ok. Un vrai sujet à creuser, car c'est notre vie professionnelle qui en dépend.
Vous le voyez, la question du travail questionne notre vision du monde et notre vision de l'histoire de l'Église dans le monde. Votre travail doit-il chercher à transformer la société et à la réparer, ou au contraire, si cela nous semble impossible parce que nous voyons le monde comme corrompu et destiné à sombrer, sommes-nous compromis alors que nous tirons de lui notre propre subsistance? Le sujet d'une doctrine biblique de travail est essentiel car il va toucher tous ces points et nous aider peu à peu à y répondre. La question du travail touche chaque personne dans son être le plus profond, dans sa relation intime avec Dieu, mais elle concerne aussi le fonctionnement de la société tout entière.
Ok. Laurent, tu peux lire « Explorons la Bible ». Ici.
Explorons la Bible, elle a beaucoup à nous dire à ce sujet. La doctrine biblique du travail est sous-jacente dans la plupart des livres de la Bible, dès les premiers chapitres de Genèse, mais aussi la construction du temple, les péripéties de Joseph en Égypte, le livre des Proverbes, les épîtres de Paul et les paraboles de Jésus. Nous allons donc avoir pas mal de grains à moudre, mais l'enjeu en vaut la peine. Nous vous invitons donc à partir avec nous à la découverte de la doctrine biblique du travail, partir dans ce parcours d'exploration, c'est être conduit pas à pas dans une vision plus large de ce que Dieu a en projet pour l'homme. Découvrir la marque qu'il veut nous voir imprimer sur le monde et dans la société. Et nous donner l'opportunité d'aligner notre vie professionnelle avec ce qu'il souhaite qu'elle soit, et ce faisant, de la rendre utile et fructueuse pour le nourrir et le servir en servant notre prochain. Et enfin, donner du sens, le sens que Dieu lui-même lui donne à cette dimension si importante de notre vie. C'est une tâche ambitieuse, mais noble et utile, alors en route pour l'aventure.
Ok, vous avez vu, c'était déjà assez dense hein, pour une introduction, ça a touché pas mal de thèmes. Ne vous inquiétez pas, tous ces thèmes en fait, vont être abordés étape après étape. En fait, si on remonte tout en haut à droite, on va aborder la doctrine biblique du travail sous trois axes. C'est un peu comme, vous savez, les quatre lois spirituelles. Hein. Il y a le plan de Dieu par rapport au salut, mais là, on va parler par rapport au travail. Quel est le plan de Dieu avant la chute? Donc, qu'est-ce que Dieu voulait par rapport au travail pour l'homme? Parce que le travail a été fait, a été créé par Dieu avant la chute. Okay, il a été créé pour l'homme. Ensuite, on va voir les conséquences de la chute, donc ce qu'on appelle le travail dénaturé par le péché. Toutes les ronces et les chardons que nous avons hein, dans le champ que nous cultivons, donc, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est les difficultés qu'on a évoquées dans nos différents métiers, ou peut-être même d'autres, on n'a pas partagé, mais moi, je me souviens de beaucoup de difficultés qui sont plutôt sur le lien, enfin qui ont un impact émotionnel. Je sais pas pour ceux qui font du métier relationnel, t'as un client qui est hyper relou, comment est-ce que tu réagis? T'as beau être chrétien, mais ça bouillonne en toi. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ça fait partie entre autres aussi de l'impact de la chute. Et enfin, troisièmement, on verra le travail racheté. C'est comment est-ce que par notre foi en Jésus, comment est-ce que par ce que Jésus a fait à la croix, ce que Jésus fait encore pour nous, c'est-à-dire qu'il prie pour nous, comment est-ce que le fait de voir avec cette vision spirituelle le travail dans le fait que Jésus nous a libérés, avant c'est le travail était fait comme étant bon, mais ensuite il y a eu la chute et maintenant on va voir quel est l'impact en fait finalement d'avoir notre vie avec Jésus dans notre travail. Donc en fait à chaque fois c'est une séance chacun de ces points. Donc l'idée c'était on va pas forcément faire je vais organiser un atelier pour chacun de ces thèmes et l'idée c'était pas forcément que toute l'église y participe. Bien sûr il y aura des gens, ce sera toujours ouvert à tous, mais l'idée c'est de se dire est-ce que toutes les personnes qui sont aussi ici présentes, est-ce que c'est vraiment un thème qui vous intéresse, est-ce que vous êtes prêts à nous réunir de manière un peu plus régulière qu'une fois tous les deux mois, tous les trois mois, pour justement discuter, nous encourager sur ce thème. Et moi, il n'y a pas de souci si vous me dites non. Vous n'êtes pas prêt à vous engager. Ça ne veut pas dire que vous dites non, parce que peut-être que voilà, une fois vous serez disponible, une autre fois vous ne serez pas disponible. Mais si vraiment c'est un thème qui vous intéresse, probablement que on pourra faire des groupes, même à 3-4. Moi, franchement, ça me dérange pas qu'on soit 3-4, mais on pourra aller approfondir ces thèmes-là, encore plus échanger en profondeur. Et voir qu'est-ce que Dieu veut agir, de quelle façon Dieu veut agir dans notre vie à travers ça. Donc, c'est un peu le but de cette introduction. on peut peut-être revenir sur, sur les points. Est-ce qu'il y a, ça me tient, ceux qui vont intervenir, hein, sur la question du 1, à quoi sert le travail? Est-ce que ça vous a interpellé par rapport à ce que vous vivez? Peut-être dites juste une ou deux phrases par rapport au sujet pour que chacun puisse peut-être partager, que ça puisse être interactif. N'oubliez pas d'activer vos micros si vous parlez. Sur le travail qui est malédiction ou bénédiction, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Peut-être pas. Hein. Ok. Et sur le point 2, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Comment est-ce qu'on a notre vision actuelle du travail? Donc, il y a une époque où voilà, c'était la révolution industrielle. Après, on a eu le capitalisme. Maintenant, on est dans un capitalisme postmoderne. Le but, c'est de toujours produire plus avec moins de temps. Et avec la mondialisation, toutes ces choses-là. Et du coup, bah, de voir que cette vision du travail, ça... En fait, si on ne prend pas ce recul et qu'on ne regarde pas quelle est la vision du travail par rapport à nos métiers respectifs, on ne pourra pas comprendre dans quoi on s'insère, en fait. On va voir notre métier comme un job. Voilà. Comme disait André, c'est un job que je fais voilà, pour gagner ma vie. Mais si on ne voit pas quelles sont un peu les valeurs qui sont véhiculées dans nos métiers, alors Juliette a bien compris que vendre des choses dans le luxe, bah voilà, ça dépend. Mais voilà, c'est vraiment la vision actuelle, notre vision actuelle du travail. Est-ce que on a pris ce recul pour se dire, bah finalement mon métier, ok, il y a des choses que j'aime bien, mais in fine, est-ce que les valeurs qu'elle véhicule, elles sont bonnes? Est-ce que la valeur qui est véhiculée, est-ce qu'elle est en contradiction avec ce que Dieu veut ou pas? Voilà, par exemple.
Du coup, moi, je me posais plutôt des... Enfin, je sais pas si ça rentre dans un des cadres, mais c'était plutôt dans mon ancien travail. Des fois, il y avait des... on se positionnait d'une certaine manière face à ce qu'on peut appeler, par exemple, la détresse humaine. Parce que tu vois, dans les gares, par exemple, t'avais souvent, même dans les gares ou autour des gares, nous, on avait souvent des personnes, des SDF, des choses comme ça, enfin des personnes dans cette situation-là. Et moi, je me souviens que, enfin, je sais que lorsqu'on était embauché à la SNCF, etc., on n'avait pas du tout le droit, même si ces personnes-là sont dans l'emprise ferroviaire, enfin dans notre, enfin par exemple, elles sont sur pas loin des quais ou dans la galerie marchande, donc ça fait partie de notre périmètre de travail, tu vois. Nous, en tant qu'agents, on n'avait pas le droit de venir en aide à ces personnes, tu vois. S'il y avait quelqu'un en détresse, on devait absolument appeler ou les pompiers ou machin, ou enfin, et on n'a pas le droit du tout d'intervenir parce que c'était en contradiction avec nos ordres. Mais et moi, je me souviens que j'animais aussi des réunions sur tout ce qui est risques psychosociaux, et dedans, t'as des questions qui te disent en gros. Est-ce qu'en gros vous êtes en contradiction avec, je sais pas, des valeurs d'entreprise ou des choses comme ça, tu vois. Et en fait c'est difficile parce que t'as plein de, nous le midi avec les autres alternants, ça nous arrivait qu'on se promenait et tout, pour sortir un peu du bureau. Et des fois on a vu des personnes vraiment en détresse, tout ça, et on n'a pas pu s'empêcher d'aller les voir, leur demander si ça allait, et des fois tu te retrouves dans des situations comme ça où ton travail t'empêche de réagir de manière, on va dire, humaine, mais toi c'est plus fort que toi. Et en fait la question c'est plutôt est-ce que dans ce cadre-là tu vas plus loin que ce que t'autorise le travail en risquant, je sais pas, peut-être, je sais pas vraiment ce qu'on risquait en faisant ça, mais Mais du coup, ça, en fait, ça crée en toi un vrai problème, parce que toi, t'as envie d'aider et tout, mais tu peux pas parce que le travail t'en empêche. Du coup, la question, c'est est-ce que ce travail, c'était une partie du travail, hein, mais est-ce que du coup, ça remet en question tout ton travail? Est-ce que tu te dis à ce moment-là, est-ce que je dois vraiment rester dedans? Est-ce que, du coup, c'était vraiment personnellement, c'était le gros exemple que j'avais moi dans mon travail.
D'accord. Alors c'est pas en lien direct avec la question 2, mais ce sera sur d'autres questions. Je pense que notre travail, en fait, on est payé pour faire une certaine tâche dans un cadre. Je te dirais que normalement non. Quand tu es au travail, tu es censé faire le travail parce que tu es payé pour ça. Surtout quand tu considères que le travail, tu le fais pour Dieu, tu vois, enfin comme si c'était pour Dieu. Et que si tu commences à faire du travail social, je dis n'importe quoi, mais si tu avais pris une heure ou une demi-heure pour aider ce gars-là, enfin la personne qui était dans la détresse, c'est-à-dire que tu n'aurais pas fait ton travail pendant une demi-heure, tu vois. Par contre, après, pour moi, quand tu es en pause, alors je sais pas quels sont les statuts à SNCF, mais pour moi, si tu travailles pas, tu es en pause et tu vas manger et que tu croises quelqu'un et que tu fais quelque chose, c'est indépendant, tu vois, t'es pas forcément en uniforme, t'es en civil, quoi.
Ouais, c'est hors cadre de ton travail, en fait.
C'est ça, en fait. C'est que, je dis n'importe quoi, mais genre, tu prends ton, des fois, tu te déplaçais à l'autre bout du monde, là, à Mantes-la-Jolie. Si pour une raison X ou Y, sur ton trajet, t'as un SDF, tu commences à lui parler, c'est pas grave, parce que t'étais dans le cadre de ton travail, mais c'est pas interdit, tu vois. De toute façon, t'aurais rien fait vu que t'étais dans le transport pour aller à la gare de Mantes-la-Jolie, tu vois.
Ok.
Enfin, moi, je prends l'exemple des nombreux voyages que j'ai fait, surtout dans mon ancienne boîte. Je faisais beaucoup de trajets en TGV. Je pouvais travailler dans le TGV, mais bon, pour ceux qui ont déjà travaillé dans le TGV, c'est dur d'être à fond, hein, avec un écran, avec une connexion pourrie, etc. Et en fait, des fois, j'avais des gens à côté de moi et franchement, j'avais des discussions pendant une heure et demie, et souvent, c'était l'évangélisation, de la pré-évangélisation. Je n'étais pas payé pour ça, mais en même temps, j'aurais pas vraiment plus bossé que ça si j'étais là, tu vois. Alors après, des fois, je me force, quoi. Je me dis quand même, voilà. Mais des fois, je fais un peu les deux. Mais tu vois, c'est un peu borderline, mais ça dépend. Je pense que ça dépend et c'est difficile de dire non, absolument non. Tu vois, je cesse d'être chrétien au moment où je rentre dans mon TGV. C'est pas possible, tu vois. Je pense que ça dépend. Ça dépend vraiment, mais il y a des fois où c'est pas le moment, quoi, on va dire. Après, tu vois, si vraiment tu te poses la question sur j'ai envie d'aider ces SDF, etc., est-ce que peut-être c'est ce genre de métier, vers ce type de métier que tu veux tendre, tu vois. Alors, je vais pas remettre en cause tout ce que tu es en train de faire, Stéphane, mais tu vois, c'est des questions plus profondes à se poser. Tu vois, je me dis, j'ai envie d'aider quelqu'un. Est-ce que finalement, aider quelqu'un, c'est pas justement le métier que j'ai envie de faire plus tard, tu vois. On t'entend pas. Je crois que tu as désactivé ton micro.
Ah, pardon, oui. Non, je disais, ok, je note. Mais c'est vrai que Stéphane. C'est surtout difficile par rapport à la position et par rapport au fait que tu es censé représenter une société, tu représentes la SNCF quand t'es sur le...
Ouais.
C'était plutôt ça, et nous, c'est vrai que on le faisait pas pendant nos heures de travail, hein, mais tu vois, par exemple, le midi quand on sortait, ça nous arrivait, on prenait des bananes au Carrefour et on allait en donner. C'est vraiment des petits trucs, mais à chaque fois on se posait la question. Enfin, moi je me posais la question en mode c'est clair que l'entreprise se pose en mode c'est vraiment pas l'indifférence, mais en gros c'est pas ton rôle d'agir, tu vois. Donc, c'est un peu.
Alors, normalement non, mais après t'as des boîtes où tu peux avoir des initiatives, tu vois. Je sais pas trop quand ça se passe, mais par exemple, tu peux avoir une association qui se crée, un groupe de personnes dans la boîte qui dit, tiens, on a vu des SDF, etc. Et on a envie de mettre des choses en commun pour répondre à leurs besoins. Ça peut arriver une heure ou une demi-heure avant. Je sais pas, tu vois, créer un collectif sur. Ouais. Tu vois, ça serait plus ça, plutôt que de dire, est-ce que je fais quelque chose là pendant mon heure de travail? Et après, faut pas oublier, tu disais, appeler les pompiers. Clairement, appeler les pompiers sont là pour ça aussi.
Oui.
t'es pas là pour te substituer aux pompiers aussi. Enfin, toi, c'est cette. Ouais. Ok.
Ok, je vois. Merci.
D'accord. Je continue. Donc, le point 3, on parle de la dimension spirituelle du travail. Alors, on n'y pense pas forcément. Je ne suis pas sûr qu'on se pose tous la question sur est-ce que l'informatique, c'est spirituel ou pas. Mais dans le métier où je suis, ça change tellement en fonction de la boîte où je suis, des collègues où je suis, des valeurs de la boîte, et comment se passe l'ambiance de travail, etc. Et en fait, ça nous engage totalement. En fait, on ne peut pas dire, bon, bah, physiquement, je suis là, psychiquement, je travaille. Et je suis pas chrétien ou voilà, il y a forcément des questions qu'on se pose et il y a des systèmes de valeurs que on soutient soit consciemment soit inconsciemment. Inconsciemment, ça peut être je sais pas le travail que je fais finalement, on sait que la valeur principale c'est ça. Est-ce que je le soutiens de manière inconsciente ou est-ce que je dis bah OK, je le soutiens mais à côté de ça, j'en profite pour faire d'autres choses. Enfin voilà, ça c'est des questions aussi qu'on peut se poser. 4, qu'est-ce qui donne du sens au travail? Ça c'est super intéressant. C'est un peu l'image de dire bah est-ce que quand je vois un ouvrier qui travaille dans un chantier de construction d'une église par exemple, il y en a un qui va dire ouais bah là je suis en train de tailler la pierre, donc je fais juste la tâche en soi. Il y en a qui vont dire bah là je suis en train de me muscler les bras parce que je suis en train de faire un boulot voilà manuel. Il y en a un autre qui dit moi je construis une cathédrale. Vous voyez, ça dépend aussi de la vision des choses. Est-ce que dans mon travail, je me rends compte que ce que je fais est une pierre par rapport à l'édifice, si je puis dire, du travail de manière plus globale. Voilà. Et est-ce que j'y adhère aussi? Est-ce que, imaginons, voilà, je suis comptable. Imaginons que je suis comptable dans une société, donc pas comme Yaki, mais je suis exactement dans la société. Le métier de comptable il est génial, mais finalement, je suis comptable dans une société, je dis n'importe quoi, peut-être qui vend des armes chimiques. Voilà. Du coup, je fais le boulot de comptable, c'est super intéressant. Mais par contre, les archives, je suis moi, voilà. Donc peut-être que je vais démissionner pour être comptable, mais dans un autre type de structure. Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser. Voilà. Donc, et en fait, on va voir que dans la Bible, il y a plein d'histoires, que ce soit des passages, des paraboles de Jésus. Souvent, il va prendre des situations, des fois des situations même de travail. On voit la Genèse qui va donner vraiment le cadre. On voit la construction du temple qui a demandé, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont eu Exode ou le tabernacle. Dans Exode, voilà, ceux qui ont fait mon cœur une habitation pour Dieu, je crois que ça s'appelait comme ça, le livre de Besmour, là, au groupe de maison, on a fait ça pendant un an et demi, et puis on voyait tous les trucs. Enfin, moi, j'ai tout oublié, mais on voyait les chandeliers, comment était habitée la personne pour construire ces choses-là, donc fabriquer ces choses-là. Donc voilà, il y a vraiment des dons, et la Bible parle de ces choses-là. Voilà, et c'est un peu le but, c'est d'aller creuser plus en profondeur tous ces sujets. Donc on peut discuter là rapidement durant les 10 minutes qui nous restent en petit groupe. Donc l'expérience personnelle du travail, on en a déjà parlé, hein. Qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on aime moins, donc ça je passe. Alors, deuxième question, peut-être qu'on peut faire un petit tour pour ceux qui veulent, c'est quel sens donnez-vous à votre travail, à qui sert-il, que produit-il? Et moi je trouve que la question la plus intéressante dedans, c'est que se passerait-il s'il n'existait pas. Voilà. Si mon travail n'existait pas, est-ce que la Terre pourrait continuer à tourner, si je résume, ou est-ce que franchement, on a créé un besoin et on y répond, et du coup voilà. Par exemple, voilà. Quel sens donnez-vous à votre travail? À qui sert-il? Que produit-il? Que se passerait-il s'il n'existait pas? Peut-être que Denis, tu veux peut-être commencer à essayer de répondre à la question, si t'as des idées. On t'entend pas.
Non, je sais pas.
Ok. La famille.
Pour plutôt à la dernière question, c'est ça? Non, ou
le... non, sur toute la question 2. La question 2.
Bah moi, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs personnes qui, quand ils se posent des questions sur le sens au travail, qui disent « Ah, mais si je serais dans la santé, je trouverais un sens. » Alors que moi, au contraire, il y a eu beaucoup de fois où je me suis dit « Qu'est-ce que je fais là, quoi ?» C'est marrant, hein. parce que j'avais justement l'impression, ce que tu disais au niveau du topo, que je servais pas Dieu parce que j'étais pas dans un... Enfin, moi, au travail, j'ai... Souvent, c'est... j'ai pas... Alors, peut-être c'est moi, hein. Je pense que c'est pas uniquement mon travail, mais j'ai pas énormément d'occasions de témoigner, en fait. Je trouve, mais je pense que j'y suis aussi pour quelque chose. Et donc, souvent, j'avais l'impression, en fait, d'être pas à ma place. Malgré que je vois le sens, je vois le sens dans le sens où les femmes, elles ont besoin d'être accompagnées. Pas le toute seule, hein, elles peuvent, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, je vois le sens, on va dire, le besoin. Mais ça m'arrive des moments où je me dis, comme c'est pas pour Dieu, enfin, je sais pas comment dire, maintenant je me pose moins ces questions parce que je pense qu'il y a un temps pour tout et que Dieu m'a placée là. Donc voilà, mais c'est pas si simple, c'est parce qu'on a un travail un peu qui semble utile au niveau de la société que nous on se sent forcément à notre place, quoi. Mmh.
D'accord. Après, ne pas oublier aussi que. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que ces 10 dernières années, souvent, ce qui était très encouragé, c'était de dire comment est-ce que j'ai pu témoigner de Dieu à mon travail, tu vois. Et après, tu as les profs qui sont super frustrés parce que les profs, ils peuvent pas trop témoigner dans leur travail, ou ceux qui sont dans la fonction publique, ils peuvent pas trop normalement témoigner aux patients, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et en fait, on perd de vue, en fait, le but de notre travail, tu vois. Et oui, on est appelé à témoigner, mais déjà, témoigner, c'est, on oublie souvent témoigner par l'excellence, tu vois. Est-ce que je fais mon travail de manière la plus excellente? Et si les gens se disent, mais pourquoi est-ce que tu te donnes tellement d'énergie dans ton travail alors qu'il n'y a personne qui va le voir, tu vois? Et là, tu peux répondre, tu peux dire, parce qu'en fait, mon travail, je le fais pour Dieu. Et là, tu as témoigné, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs comme ça. On se dit, si on n'a pas dit Jésus, on n'a pas témoigné, il n'y a pas une plus-value ajoutée. Mais en fait, là où Dieu t'a placé, là où Dieu nous a placé chacun, c'est des endroits où c'est des gens. Ce sera difficile d'atteindre, à part si dans la rue on les chope, on leur parle et genre Stéphane, voilà, c'est un Stéphane, mais ça ne marche pas tout le temps. Et les gens que Dieu a placés dans notre vie, on est aussi appelé à construire des relations avec ces personnes. Il y a pas mal d'entre vous qui ont dit, je crois que c'est Laï qui parlait des bonnes relations qu'il y a avec ses collègues, où elle peut vraiment parler de plein de choses. Peut-être que dans le milieu médical, c'est tellement, t'es sur l'administratif, etc., qu'avec les collègues, t'as peut-être moins de temps. Mais peut-être qu'en disant une ou deux bonnes relations, ça peut se faire même en dehors du travail. Vous voyez, c'est vraiment se dire, si Dieu m'a placé dans ce travail, est-ce que c'est pas pour être là pour une ou deux personnes qui va me mettre à cœur, plutôt que dire, est-ce que j'ai annoncé Jésus trois fois dans la semaine ou dans le mois? Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais que ça va venir naturellement, en fait. On n'est pas payé pour évangéliser, mais on est payé pour faire notre travail et des manières possibles, et surtout de faire comme si ce travail c'était pour Dieu, en fait. Voilà. Une autre personne sur la question 2?
Moi, c'est juste pour rebondir en fait sur ce que Jessica disait, le fait de se demander, enfin de se dire oui, que si elle travaillait pour Dieu, ça donnerait plus de sens. Et moi, le fait d'avoir changé de travail, au début je me posais la même question que Jessica, et c'est ce qui m'a poussée, on va dire, à changer de travail et me dire travailler vraiment pour une organisation chrétienne. Et je vois que les opportunités, finalement, elles sont moindres de travailler dans une organisation chrétienne. C'est-à-dire que je rencontre moins de non-chrétiens et que les personnes, en fait, qui sont autour de moi, elles n'ont pas forcément besoin d'être évangélisées. Donc, finalement, ce n'est pas totalement vrai de se dire que, je travaille pour Dieu dans un milieu chrétien, je peux plus évangéliser. Oui, peut-être évangéliser, on va dire, des plus grands groupes, par exemple, les enfants qu'on parraine, mais c'est indirectement. Donc, finalement, le fait d'être dans le privé, tu as plus d'opportunités de rencontrer des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et là, de témoigner directement ou indirectement.
D'accord. Merci. Là, on a l'extrême inverse, hein, quelqu'un qui a quitté son travail séculier pour travailler dans le ministère, et on voit que c'est assez différent quand même. Ok. Question 3, je pense que c'est la question la plus... je ne vais pas dire la plus importante parce qu'elles sont toutes importantes, mais elle est très intéressante. Alors, quelle est la vision dominante du travail dans votre secteur professionnel? Par exemple, se faire un max de blé, gagner sur la compétition, servir le mieux possible les clients. Voilà. Comment y est vu le salarié? Comme un collaborateur ou comme un exécutant? Quel compromis avez-vous le sentiment de faire pour travailler dans le secteur professionnel? Ben déjà, quelle est la vision dominante du travail dans le secteur professionnel? Quelle est la vision dominante du travail dans le secteur
professionnel? Moi, je peux partager. Moi, de mon côté, je travaille dans la finance. Du coup, comme tu l'as dit, ta première option de faire un max de blé, je pense que ça s'y pète. Après, faire un max d'argent pour le client, lorsqu'il nous confie son argent. Pour un peu rejoindre ce que le point d'avant, c'était à quoi servir. Enfin, si le métier n'existait pas, est-ce que le monde s'en porterait moins bien ou mieux? Nous, le but, c'est de faire, en fait, c'est de prendre des frais sur l'argent qu'on fait en plus pour les clients. En fait, finalement, c'est pour que les clients puissent avoir plus d'argent pour des objectifs, soit d'avoir plus d'argent simplement, soit pour des objectifs de retraite, on va dire pour les petits épargnants, en fait, comme nous, ce serait de garantir, enfin, d'avoir des suppléments de revenus quand nous, on sera à la retraite. Mais c'est du long terme, du coup. Les valeurs de l'entreprise, en fait, ça, je trouve que c'est beaucoup de marketing en ce moment. Toutes les boîtes veulent être
RSE et tout ça, là.
Faire de l'utilité sociale, du responsable, de l'environnemental. Tout le monde veut être sur ce créneau. Ça peut être, c'est des fois je trouve ça un peu hypocrite parce que ils mettent ça en place, mais c'est pas parce qu'ils aiment bien, c'est parce que derrière il y a aussi les investisseurs chez nous, ils aiment bien parce que c'est à la mode. C'est aussi pour recruter la prochaine génération pour qui c'est devenu hyper important parce qu'ils baignent dedans.
Ouais.
Et du coup c'est du gagnant-gagnant quoi. Ils sont obligés en fait de passer par là. Et donc je sais pas s'il faut questionner le fait est-ce que c'est vraiment authentique ou pas. Mais bon, n'empêche que je pense que une boîte aujourd'hui et il y a 30 ans, c'est plus facile d'être éthique aujourd'hui qu'avant. Avant, on faisait tout pour faire du blé, même s'il fallait faire des trucs limite de la légalité. On faisait. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a peur des scandales, on a peur des réseaux sociaux, on a peur de tout. Du coup, aujourd'hui, on va dire que niveau éthique, même si les motivations sont peut-être pas aussi louables, mais en surface, on va dire que c'est appliqué. Donc, dans une boîte, on te demandera rarement, aujourd'hui, je pense, de faire des trucs à l'encontre de l'éthique, de mentir, de cacher des vérités, puisque ils savent que ça peut leur tomber dessus, mais très dur, quoi.
D'accord. Et
donc, à ce niveau-là, on prône éthique, excellence, respect, tout ça. Le nombre le nombre d'articles sur l'intranet sur le respect de l'autre, il y en a tellement. Maintenant, on fait même tout ce qui est LGBT, on fait tout ce qui est, on t'aide à le coming out, on t'aide pour tout. Faut que tu t'acceptes toi-même, on respecte tout le monde. Et du coup, c'est même surjoué, je trouve, parce qu'on essaie de gérer toutes les différences possibles.
Ouais.
On s'est posé la question si on veut faire des toilettes du troisième genre. Donc voilà, enfin tu vois, ça, je trouve qu'ils vont très loin dans le truc.
Ouais. Alors moi, après c'est vrai que je vois dans la finance sur les plans, comment on appelle ça, les participations, les intéressements que nous on gagne chaque année ou pas.
Sur l'ISR. ISR.
Ouais. Ouais, voilà. Maintenant, t'as des placements que tu peux faire sur des fonds plutôt solidaires ou éthiques.
Ouais, mais c'est à la mode. Même par exemple, toi qui n'es pas dedans, tu vois, si tu te dis, ça t'interpelle, je fais, c'est cool et tout, je peux l'investir dessus, ça va contribuer à réduire l'empreinte carbone ou des choses comme ça. Mais après, quand tu regardes dans les investissements, par exemple, dans l'un des fonds que nous on vend, ISR, le plus gros investissement, c'est Total.
Ah.
Mais après, moi, je trouvais ça bizarre, mais après avoir posé des questions, ils disent, oui, mais on investit dans Total parce qu'ils ont un plus gros potentiel de réduire leur empreinte carbone s'ils changeaient de business model.
Ouais, d'accord.
Mais enfin, bref, du coup, c'est. Ouais. Mais t'es obligé parce qu'après, personne n'achète les produits.
Ouais. En tout cas, nous, on avait le choix. On avait des labels, des trucs ISR et d'autres qui n'étaient pas ISR. Mm. Et du coup, j'ai pas mal de collègues qui se disent, attendez, quand même, on fait. Enfin voilà, donc c'est. Alors je sais pas à quel point ils ont été.
C'est vrai de faire de GSR, puisque c'est ce que vous essayez de faire sur les. Surtout sur vos projets.
Ouais, c'est ça. Et deuxième chose, tu parlais de. On est ouvert surtout sur LGBT, sur faire des
trucs ouais, de en fait, genre, etc. On accepte tout le monde en fait, mais.
On accepte tout le monde, ouais.
C'est. Bah toi, t'aimes ça, bah tant mieux pour toi. Ah, toi, tu prends ça, bah tant mieux pour toi. C'est ouais. Un peu. Bah, même dans nos relations avec nos potes non chrétiens, c'est ça.
Ouais.
Alors, parler de Jésus, ah, bah, c'est bien pour toi, toi, t'es bien dedans, bah, good for you, quoi, c'est bien.
C'est ça. Ça, c'est vraiment le contexte post-moderne. On va dire à peu près depuis les années 90. Avant, c'était vraiment ce qu'on appelait l'époque plutôt moderne, où on ne jurait que par la science, la raison. Il y avait vraiment, on s'est tout démontré avec les lumières, etc. Et en fait, bon, voilà, on a eu toutes les deux guerres mondiales qu'on s'est tapées. Il y a eu la guerre froide. Et là, maintenant, on est plus vers un truc où c'est hyper individualiste. Et en fait, la question, c'est pas de savoir qui a raison. C'est plutôt de dire, bah, on est ouvert à tout. On est open sur tout.
Et, si toi, bah, c'est bien. Voilà.
Pardon?
Si toi, t'es bien, bah, c'est bien.
Si toi, t'es bien, tant mieux. Ouais. Et c'est là où je pense que l'évangile garde encore sa pertinence. C'est que l'évangile est resté le même depuis 2000 ans, en fait. Quand on était en époque pré-moderne, on avait la religion au centre, moderne, où la religion faisait partie d'un tout, mais voilà. Et post-moderne, où la religion fait partie de toutes ces choses-là, mais selon chacun. Tu vois, genre, moi, je prends un peu de ça, la religion, et je fais mon truc, quoi, tu vois. Et ça, c'est une autre formation que j'aimerais faire dans l'église, où vraiment, c'est comment est-ce que j'évangélise dans un contexte post-moderne. Je pense que c'est hyper intéressant. Ça sera assez complémentaire avec ce que tu viens de dire. Bon, ce sera pas l'objet de nos ateliers ici, parce que voilà, mais c'est hyper intéressant, franchement, de voir que, en fait, des questions comme bah, qu'est-ce que tu penses des homosexuels, tu vois, typiquement une discussion comme ça que tu peux avoir avec des collègues, la manière dont tu vas répondre, en fait, ça va hyper jouer, en fait. Enfin, ça va être hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils te posent la question, c'est est-ce que moi, en te posant la question, je te place, selon les deux premières phrases que tu vas dire, dans la catégorie des gens qui sont intolérants, que je vois à la télé, là, qui disent avec des panneaux aux États-Unis, ouais, je veux pas des homosexuels, etc., vous allez vous brûler en enfer. Est-ce que je te place dans cette catégorie-là ou pas? Tu vois, c'est la seule question qui se pose derrière quand ils posent la question. C'est pas, à part si vraiment c'est un truc hyper profond parce qu'ils le sont eux-mêmes, mais souvent les gens qui posent la question sont même pas eux-mêmes homosexuels, tu vois. Enfin, c'est ça qui est fou. C'est qu'on prend un petit truc et on se dit, bah, tu vois, voilà, l'avortement, mais t'imagines la femme qui s'est fait violer, ok, mais est-ce que t'es dans ce cas-là? Enfin, tu vois, souvent, c'est des prétextes, en fait, souvent, pour qu'on va mettre sur, dire, bah, non, mais tu vois, des chrétiens ou Dieu, etc., c'est pas bien. Enfin, ou en tout cas, moi, j'y crois pas. Mais ça nous arrange, en fait, quelque part. Tu vois. Enfin, ça les arrange.
Bah après, c'est sûr que ce thème, ça serait intéressant de le traiter.
Ouais. Yes. Ok. Question subsidiaire. Quelle dimension spirituelle pouvez-vous donner à votre travail? En quoi est-il relié à Dieu? En quoi vous fait-il grandir au niveau spirituel? Qu'est-ce que tu approuverais dans votre pratique professionnelle? C'est une question un peu sur laquelle on n'a peut-être pas tous forcément réfléchi, mais l'idée c'est de dire bah, est-ce que à travers justement cette réflexion qu'on va avoir tous ensemble, est-ce que on pourra aller plus loin et se dire bah, qu'est-ce que Dieu veut me parler dans chaque journée que je passe, etc. Dans mon travail, est-ce qu'il y a des échecs? Voilà, il y a des clairement, voilà, je me suis engueulé avec mon supérieur ou j'ai un client qui n'était pas satisfait. Est-ce qu'à travers ça, il y a des leçons à tirer? Et au niveau spirituel, pas seulement au professionnel, mais spirituel. Voilà, il y a des choses qu'on peut apprendre. Ce genre de questions qu'on peut se poser. Voilà, donc je propose de s'arrêter là. On avait commencé un peu après 10h, mais je pense qu'il faut qu'on se prépare à manger. Et puis pour ceux qui vont se rendre physiquement au culte, voilà, faut qu'on puisse se préparer aussi. Est-ce que vous êtes tous intéressés pour continuer ces ateliers, ou est-ce que il y en a parmi vous qui veut peut-être prendre plus de, enfin, voilà, plus de recul et pas s'engager? Donc, j'ai noté Esther et Francis, oui. Juliette, oui. Alain?
Moi, je vais réfléchir.
Ok. Famille? On n'entend pas? Famille, on n'entend pas?
Je cherche comment mettre le pouce.
Ah, d'accord. Laurent? On n'entend pas, Laurent. Ah voilà, il a trouvé.
Il a mis le pouce, Yaki, c'est bon.
Ah, c'est bon, Yaki, il a mis le pouce. Laurent, j'entends pas ce que tu dis.
Oui.
Oui, ok. Laïs, c'est non, c'est ça, c'est la croix.
Elle a mis oui, non ? Je crois.
Bah, elle montre la croix, alors je ne sais pas trop.
Non, elle a mis oui dans le groupe, enfin dans la
croix. Ah, ok.
Oui, d'accord. C'est bon, Laïs, elle a mis oui.
Ok, André.
Je vais y réfléchir aussi pour Malin.
Ok, ça marche.
Ah ouais.
Et ouais, Stéphane.
Ouais, ouais, ouais.
Ok, ça marche. Et Wonder Woman, c'est Fiona et Anna, je crois, c'est ça ? Je les entends pas.
Ouais, ouais, ouais. Coucou.
Salut.
Salut, Anna.
Ok. Bon, je vais vous inviter à prier pour clôturer. Mais avant de prier, je voulais juste savoir aussi, est-ce que le dimanche matin, c'est un horaire qui vous va en termes d'horaire ?
Pour moi, oui.
Oui.
Ouais, d'accord. Et 10h, 11h30, ça va ? Ça fait pas trop tôt ? Ça laisse le temps aussi de se préparer pour aller au culte pour 14h ? Ça vous va ? Sur l'horaire. Vous voulez commencer encore plus tôt à 9h ?
Non, non. C'est 10h.
Stéphane, il veut commencer à 8h, c'est ça ? Tu lui prends ta
bière ? Non, hein, quoi ?
Ok. Si ça vous dit, on peut peut-être se programmer pour dans 2 semaines, si ça vous va, pour commencer. Je pense qu'on fera une pause avec les vacances. Hein. Je pense qu'on va faire une pause avec les vacances, mais dans 2 semaines, je pense qu'il ne sera pas encore les vacances pour tous. Ce serait le 5 juillet matin.
Normalement, il y a le groupe de femmes à 11h.
Ah, c'est dimanche matin ?
Ah bon ?
Attends.
C'est pas samedi matin, les femmes ?
Ah, je me suis trompée peut-être. Non, je me suis trompée.
Et le groupe des femmes, t'es sûre que ça continue l'été ? Parce que je suis pas sûre. Attends.
Ah ouais, il faudrait que je repose la question à...
Attends, je demande peut-être Esther, tu sais, non ? Ou Laï, vous savez ?
Non, moi, je sais pas. J'étais pas là au dernier groupe.
Ah, ok. Tu te souviens, Laï ? Chérie, il y a un groupe de femmes dans 2 semaines ? Hein ? Il y a un groupe de femmes dans 2 semaines ?
On n'a pas fixé de date, hein, je crois.
Ah, okay. Ah ouais. Mais c'est samedi matin, c'est pas dimanche.
Pour l'instant, c'est samedi et on n'a pas encore décidé s'il y avait.
Ah, ok. Apparemment, vous n'avez pas encore décidé s'il y avait ou pas.
Ok, bah, autant pour moi.
Ok. Donc, je mets 5 juillet pour la prochaine séance et puis après, bah, voilà, libre à vous de rejoindre. Même ceux qui ont dit oui, hein, c'est pas grave. Mais on va commencer. Je vous enverrai l'article. De toute façon, c'est celui qui est sur le site. C'est le premier article sur la doctrine musique du travail. Donc, il s'appelle. Okay. Hop. Vous voyez le partage toujours là ?
Oui.
Oui.
Ah, ok. C'est Dieu a voulu le travail pour nous bénir. Voilà.
Ok.
Voilà, donc c'est un petit article qui n'est pas très long. Hein. L'idée, c'est que vous puissiez préparer les questions. Comme ça, ce sera plus interactif que découvrir l'article, découvrir les questions. Voilà. Ok. Bah, je vous invite à prier pour conclure. Saint-Entre Dieu, nous te remercions encore pour cet atelier. Merci parce que ça a été l'occasion aussi de partager nos vécus et aussi nos expériences. Je te prie pour que tu puisses faire grandir chacun d'entre nous dans nos réflexions, Seigneur, notamment sur comment est-ce que nous voyons notre travail et qu'est-ce que nous voulons en faire, qu'est-ce que tu veux en faire à travers nous, Seigneur, quel est ton plan pour nous, pour le travail que nous avons. Seigneur, notre travail, nous ne voulons pas le voir comme un simple gagne-pain, même si, voilà, pour même moi le premier, j'étais dans cette perspective, et que vraiment nous puissions voir le travail comme étant là où tu nous as voulu, Seigneur, et voir comment est-ce que nous pouvons y contribuer, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est libérateur de savoir que tu as fait le travail pour nous bénir aussi. Et à travers cela, tu nous bénis aussi à travers le repos que nous pouvons expérimenter parce que nous travaillons à côté aussi. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants encore d'être dans cette église où nous avons plein de profils différents, de personnes différentes. avec des métiers différents ou des activités différentes. Et Seigneur, nous te prions pour que tu puisses encore nous forger pour être encore plus semblables à l'image de Christ là où tu nous auras placés, Seigneur, ou là où tu nous as déjà placés. Je prie que tu puisses veiller sur nous et nous préparer pour le culte de cet après-midi. Et je te prie à son nom de Jésus. Amen.